un retour du balancier, mais on s'entend qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais elle est encore plus prononcée, je pense, en technologie.
Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 190e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis et jeudis matin. Et en plus de Hypercroissance, sachez que l'équipe de J7 Media qui est derrière ce podcast produit également deux autres balados. Social Selling, un podcast 100% orienté publicité Facebook et Commerce Elite, un podcast 100% orienté commerce électronique. Les liens sont d'ailleurs dans les notes de l'épisode si vous désirez y jeter un petit coup d'œil. Également, si vous cherchez un partenaire de croissance pour vos campagnes numériques pour terminer l'année en force, rendez-vous au www.j7media.com/hypercroissance. Donc, je le répète, J, le chiffre 7, media au singulier.com/HYPERCROISSANCE afin d'obtenir gratuitement une analyse de vos campagnes actuelles ainsi qu'un plan de match personnalisé pour les semaines à venir. Vous pouvez également venir discuter directement avec moi sur LinkedIn si c'est plus facile. On a eu beaucoup d'entrepreneurs qui sont venus sur le podcast nous expliquant comment s'orchestrer la dynamique de reprise de l'entreprise que leurs parents avaient créée, comment se déroulait la passation et également quels sont les défis que le repreneur fait face. Par contre, on n'avait pas encore eu la chance de recevoir un parent et un enfant dirigeant une organisation ensemble. Eh bien, c'est maintenant chose du passé car pour l'épisode du jour, on a la chance de recevoir Jean-François Charpentier ainsi que Anne-Marie Deslauriers, tous deux propriétaires de l'entreprise de recrutement de l'ANE. Anne-Marie, qui a fondé l'entreprise à la fin des années 90, nous raconte les 25 années en affaires de l'organisation qui furent, soyons honnêtes, assez tumultueuses. On discute également avec Jean-François qui nous explique comment il a rejoint l'entreprise au début des années 2010 et comment son impact a pu aider la croissance de l'entreprise. Sans plus attendre, ma discussion avec Anne-Marie Deslauriers ainsi que Jean-François Charpentier. Marie Deslauriers et Jean-François Charpentier, vous êtes tous les deux propriétaires de l'entreprise de l'ANE, une organisation spécialisée dans le recrutement à Montréal. La société qui existe depuis 25 ans maintenant a connu plusieurs vies avant d'atteindre la croissance qu'elle connaît aujourd'hui avec près de 30 collaborateurs dans ses troupes et un chiffre d'affaires de plusieurs millions à l'année. Anne-Marie Deslauriers et Jean-François Charpentier, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Merci à toi Antoine de nous avoir.
Merci Antoine.
Et bon, pour bien situer notre audience aujourd'hui, je tiens à mentionner, là, puis ça c'est important de le dire, que Anne-Marie est la mère de Jean-François. On a donc place une belle histoire familiale et peut-être j'aimerais t'entendre ici, Jean-François, si tu peux expliquer un petit peu en détail à notre audience ce qui vous distingue chez Deland des autres firmes.
Donc, Antoine, comme tu l'as dit, nous, on est une firme de chasse de tête qui est spécialisée en informatique. Mais vraiment, qu'est-ce qui nous distingue le plus, c'est vraiment nous, notre « why ». On est vraiment des bâtisseurs de relations. Nous, on se lève le matin, puis pourquoi qu'on fait notre job, c'est parce qu'on veut bâtir des relations, que ce soit avec nos candidats, nos clients, nos personnes à l'interne. C'est vraiment ça qui fait en sorte que Deslauriers existe aujourd'hui. Anne-Marie, évidemment, tu l'as dit, c'est ma mère. Elle a toujours été une personne qui a été outgoing, extrovertie, toujours intéressée à ce que X fait, puis ah, oh, toi, tu fais quoi, puis ah, oh, c'est le fun. Toujours vraiment une personne très humaine. Puis ça a vraiment résonné chez nous depuis que je suis tout petit. Puis aujourd'hui, ben, tu sais, on s'est vraiment regardé dans les yeux un peu il y a 10 ans quand moi je suis arrivé dans la compagnie. Puis on s'est dit, tu sais, oui, on est une firme de chasse de tête en TI, mais vraiment, c'est parce qu'on veut bâtir des relations avec tout le monde. On veut grandir avec tout le monde. Puis c'est vraiment le why de la compagnie qui fait en sorte qu'on se distingue de tout le reste là. C'est notre core, ça vient du cœur, nos intentions, c'est vraiment vraiment ça, c'est être des bâtisseurs de relations.
Donc une entreprise très humaine ici. Et Anne-Marie, je reviendrai peut-être vers toi ici. Bon, Deslauriers a été fondée en 1997. Peux-tu nous ramener peut-être un petit peu à la fin des années 90 puis nous dire un petit peu où est-ce que tu te situais à ce moment avec ta carrière professionnelle?
Écoute, à la fin des années 90, j'étais dans une entreprise en TI. En fait, mon associé de l'époque avait travaillé dans une entreprise, puis elle me dit « Écoute, viens-t'en, technologie, c'est wow, c'est l'avenir, viens travailler avec moi. » Jean-François était tout petit, tu sais, je suis allée. Mais le premier CV, là, je t'avoue, Antoine, là, tu sais, quand t'as recruté en administration des secrétaires, des commis comptables, puis t'es en techno à la fin des années 97, tu regardes un CV, là, j'ai pitché le CV puis j'ai dit, ah, je comprends rien. Mais là, il y a pas vraiment d'Internet, là, hein. Elle m'a donné un livre, elle dit, t'es intelligent, lis ce que tu comprends pas. Et pose des questions aux candidats. Comme Jean-François dit, on est bâtisseurs de relations, puis on l'était là. Donc, j'ai appris à connaître les TI, j'ai appris à poser des questions avec des gens qui étaient avides de me le montrer. Et puis, ben écoute, c'est là qu'on a pris notre envol pour un jour décider que on voulait se partir en affaires parce que la personne avec laquelle on travaillait avait des hauts très hauts, des bas très bas, puis c'était invivable. Fait qu'on s'est dit, écoute, on va se partir en affaires, on va l'acheter. Mais enfin, non, on l'achètera pas. Fait qu'on a parti là avec un petit flip phone, je montre ma souris parce que c'était ça, qu'on a appelé Delan, OK? Puis Delan, c'était Delaurier Laniel, puis on trouvait ça bien cute parce que LAN, c'était Local Area Network. Hein? Fait qu'on se trouvait bien en mode. Fait qu'on on a parti une compagnie, mais je te dirais que on s'est créé deux jobs qu'on aimait. C'est ça qu'on a fait. On s'est créé deux jobs qu'on aimait parce qu'on croyait en nous. Puis deux femmes en technologie à la fin des années 97, pas évident, là. Tu sais, je veux dire, on était un petit peu à l'avant-garde. Fait qu'on a créé l'entreprise en voulant vivre et réussir. Et puis, ça a pris son envol comme ça.
Puis, je pense que c'est ça. Rapidement, vous avez atteint une certaine croissance.
Oui,
les années passent.
Oui.
Et bon, au milieu des années 2000, je pense, vous avez décidé de tout vendre, là.
Ben, en fait, on a grandi. Après ça, le crash de 2001 est arrivé. On a eu de la difficulté. Ça n'a pas été évident. Louise était quand même pas mal plus vieille que moi. Elle a pris sa retraite. Puis là, on est resté. Tu sais, à l'époque, on n'était plus beaucoup là dans Delan. On avait été jusqu'à 7-8, je pense. Puis on était rendu 2. Fait que Louise prend sa retraite. Je dis, non, tu sais, on va vendre à la personne avec laquelle on partageait les bureaux. Moi, je vais rester dans l'entreprise. C'est complètement transparent. Pas personne qui sait à l'extérieur. Numéro de téléphone reste pareil. Le nom reste pareil. Point. Puis on crée, on continue. Puis j'étais consultante, ça allait bien. Mais en 2010, le monsieur en question a décidé de mettre la clé dans la porte et fermer ses trois entreprises et donner à tous les employés un mois pour se retourner de bord.
Oh wow.
Ouais. Fait que là, tu te dis, OK, qu'est-ce que tu fais? T'as 47 ans, puis tu fais comme, ben voyons, ça se fait pas, là, Delan, je l'ai tatoué sur le cœur. Tu sais, c'est moi. C'est. Fait que, il a dit, ben, rachète-moi. Fait qu'il dit, rachète la compagnie. Fait que je me suis retournée de bord, puis je l'ai racheté l'entreprise en 2010.
Puis Anne-Marie, est-ce que tu travaillais pour l'organisation à ce moment-là, quand tu l'as racheté?
Ben oui, je suis restée comme consultante au sein. Fait qu'il y a pas personne qui savait que l'entreprise ne m'appartenait plus. Là. Personne, tu sais, 7-4-4-3-1000, je répondais quand même. Louise n'était plus là. Louise a pris sa retraite. Mais tu sais, l'entreprise de 2003 à 2006, c'était boiteux. Là. C'était pas évident. On avait subi, écoute, tu sais, la crise économique était pas évidente. Tu sais, 2001-2002, c'était tough. Là. Hard times, vraiment. Fait que c'est ça.
Puis Jean-François, toi, à ce moment-là, donc Anne-Marie rachète l'organisation en 2010. Toi, t'es dans quelle carrière? Est-ce que tu te dis que tu vas te retrouver puis travailler également en recrutement ou t'es dans une autre catégorie?
Écoute, en 2010, j'étais à la mi-chemin de mon cégep. À tous les étés, je travaillais avec mon père en construction. J'avais une job comme concierge à l'aéroport de Montréal. Je travaillais en construction, j'allais au cégep. Puis moi, mon but, c'était d'aller en construction. Finir le cégep, mais j'ai toujours eu une flamme un peu entrepreneur, évidemment à cause de ma mère, à cause de mon père qui avait une compagnie de construction. Puis moi, tous mes amis s'en allaient en construction. La construction, c'était comme l'affaire, la job à faire, mettons. Puis là, mes parents ils me poussaient à écouter. Écoute, va pas tout de suite, au moins après ton bac. Fais le bac, puis après ça, tu iras travailler en construction. Tu sais, si tu veux travailler pour Pierre, mon père, tu sais, tu vas avoir des connaissances de business, puis blablabla. Fait que fini le cégep en 2011. Puis là, j'applique à l'université, puis je rentre pas à l'université. J'ai passé des bonnes notes pour rentrer à l'université. J'étais pas très... assidu dans mes affaires au cégep, je te mentirais pas. Fait que là, puis en plus, ma job à l'aéroport se termine malheureusement, changement de contrat ou quoi que ce soit. Fait que Anne-Marie fait juste me dire, ben écoute, viens travailler avec moi pendant 3 semaines. J'ai juste besoin de toi pendant le début janvier. Tu vas faire de l'administratif, tu vas entrer de données, des ci, des ça. Puis ce 3 semaines-là, ben ça va faire 11 ans justement en janvier qu'on travaille ensemble.
Puis bon, là tu rentres dans l'organisation. Est-ce que tu es capable de nous parler un petit peu de ton parcours, des différents piliers que tu as fait dans l'organisation? Parce que bon, Anne-Marie t'a racheté l'entreprise en 2010, ça devait pas être super gros à ce moment-là. Donc toi tu rentres, l'entreprise devait pas être dans la même taille aujourd'hui. Quel a été un petit peu, Jean-François, ton parcours à travers ton intégration chez Delanne?
Fait que moi quand je suis rentré, c'était juste moi puis Anne-Marie. C'était vraiment, on était juste les deux. On avait un bureau sur McGill College dans un centre de bureau, là, un bureau partagé, là, tu sais, où il y a plein de compagnies. Notre bureau faisait peut-être 10 par 10, il n'y avait pas de fenêtre, puis on travaillait face à face. Puis on a fait ça pendant 1 an et demi, juste à temps qu'on décide vraiment d'aller se joindre, dans le fond, à une autre compagnie qui faisait de la chasse de tête en comptabilité finance. Puis Anne-Marie connaissait très bien le propriétaire, puis c'était un ami, puis il était comme hey, « j'ai 2 bureaux pour vous, vous êtes vous n'allez plus obligé d'être face à face. » Fait que là, moi, je disais à Anne-Marie tout de suite, hey, on y va. En plus, Francis, qui s'appelait le propriétaire à l'époque, c'est un gars. Moi, ça fait 1 an et demi que je travaille face à face avec ma mère. J'ai besoin de souffler un peu. Fait que, tu sais, ça a vraiment commencé comme ça, vraiment commencé comme recruteur. Tu sais, c'est sûr que Anne-Marie, c'est comme la top chasseuse de tête en TI à Montréal depuis 25 ans. Fait qu'apprendre de elle, tu sais, parler aux candidats, parler aux clients, moi, j'ai su le vraiment comment faire ça assez rapidement. Puis, au fur et à mesure que les années avançaient, à me donner des comptes, commençait à gérer ses clients, aller chercher des nouveaux clients, jusqu'à temps qu'on décide d'embaucher notre première secrétaire, notre première adjointe. Fait qu'on commence à faire des embauches. Puis là, c'est vraiment en 2016 qu'on s'est vraiment dit que bon, mais là, il faudrait aller chercher quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un dans une autre firme de recrutement qui pourrait nous amener un peu d'autres manières de faire. Parce que évidemment, Anne-Marie a été à son compte quasiment toute sa vie. Moi, la seule firme de recrutement que j'ai vue, c'était la nôtre. Puis les autres personnes qu'on engageait, c'était vraiment des personnes qui sortaient soit de l'université, des stages, des affaires comme ça. Fait qu'on voulait vraiment aller chercher une expertise de quelqu'un qui avait de l'expérience dans une boîte de recrutement. Puis c'est là qu'on a embauché notre fameuse Stéphanie Desmarais, qui est aujourd'hui associée chez nous. Fait qu'en 2016, Anne-Marie prend le téléphone, cold call Stéphanie, qui travaillait chez Randstad dans le temps. Puis elle dit, ben écoute, fais notre pitch, où qu'on veut aller, où qu'on s'en va. Puis Stéphanie, elle a fait comme, bon, ben OK. Moi, je saute les deux pieds all in. Puis est arrivé chez nous, on était 4 à l'époque. Après ça, Stéphanie rentre, on décide de faire un gros changement d'image de marque, nouveau logo, nouveau site web. Puis à partir de 2016, ça l'a vraiment, vraiment explosé. Écoute, aujourd'hui, on est rendu 23. On a parti une division de consultation. On a notre fameux programme de dons aussi qui est en marche. Fait que écoute, ça va. Hein. On touche du bois, mais on continue sur notre lancée.
Ça se déroule bien. Puis Anne-Marie, j'aimerais ça me tourner vers toi ici. Ça devait être un peu le rêve là de travailler avec ton fils à l'époque quand tu as commencé. Tu devais te dire waouh, quel accomplissement.
Ben en fait, tu sais, évidemment c'est mon fils, je le connais. Tu sais, quand je lui ai dit viens-t'en avec moi, puis il m'a dit non, tu comprends pas, moi je fais pas ça, travailler dans un bureau là, moi je veux travailler avec papa en construction là, tu sais, comme, faut que ça soit clair, là, moi, je te le dis. Mais tu sais, je le sais comment qu'il, je savais qu'il était pour aimer ça, je savais. Fait que j'étais pas surprise au bout de 3 semaines qu'il me dit, you know, mom, I really like this. Puis c'est vrai, c'est exactement ce qu'il m'a dit et je le savais. Fait que tu sais, j'étais, oui, très contente. On a une très belle relation. On est une famille qui est tissée serrée. Tu sais, les valeurs de Dolan, c'est les valeurs de la famille. Je travaille avec lui à tous les jours. Puis tout le monde vient souper chez nous le dimanche. Sa sœur, qui est notre contrôleur. Tu sais, on se voit pareil là, le dimanche. Puis on se voit toute la semaine. Puis souvent, on dîne ensemble. Tu sais, fait qu'on est tissé serré. Fait que oui, c'est un accomplissement. Oui, je suis très fière, très, très fière de nous. Puis encore plus fière de lui.
C'est bien ça, je suis content de l'entendre. Puis, t'as mentionné un terme assez intéressant, Marie, t'as parlé de valeurs. OK, donc parlons-en un petit peu des valeurs de Dolan, parce que je pense que c'est quelque chose qui vous distingue beaucoup. Il y a à peu près 2 semaines de ça, on avait un appel ensemble. Je pense que vous reveniez d'une certaine initiative. C'était pas la grande guignolée ou...
Oui,
ou
c'est ça, c'était la guignolée des médias. Tous les employés, médias, vous... C'est ça.
Vous allez chercher des dons. Donc, parle-nous un petit peu de ça. Comment ces valeurs sociétales-là de redonner, de peut-être même faire du bénévolat, des fois, ça s'est intégré chez Dolan parce qu'au final, on en parle beaucoup en 2022, bientôt en 2023. On dirait que ça devient partie intégrante d'une organisation de ne pas uniquement regarder la profitabilité, mais également d'intégrer des valeurs sociales qui peuvent avoir un impact sur la société.
Oui, mais je pense que, tu sais, en partant, la famille, là, c'est ses valeurs-là. Tu sais, Dolan et Jean-François et moi, on a les mêmes valeurs. Puis, je vais dire quelque chose, Jean-François, il va rire encore parce que je le dis tout le temps, là. Ce que tu lances en l'air, tu retombes dessus. Il a été élevé comme ça. J'ai été élevé comme ça. Et j'ai fait du bénévolat toute ma vie. Son père en a fait aussi. Tu sais, un club optimiste, là, hockey, la gymnastique, tout ça. Fait qu'on a toujours redonné à notre façon. Fait que pour Dolan, ça a toujours été très important de redonner avec les moyens du bord. Fait que tu sais, on a des petits moyens, on redonne comme on peut. On a fait la guignolée des médias plusieurs années avant la pandémie. On l'a refait cette année. Tous les employés sont là 6 heures le matin sur le coin des rues pour faire, tu sais, ding-a-ding-a-ding, la grande guignolée donnée aux poules. Et on a beaucoup de plaisir à le faire. C'est comme un peu un team building aussi. Puis je pense que ça montre aux employés qu'on n'est pas juste là pour penser à nous. On pense à eux, on pense aux autres. Puis le programme de dons, quand justement Alexandre, qui est notre directeur développement des affaires pour la division contractuelle, quand on a démarré cette division-là, pas longtemps après, il nous est arrivé avec notre programme un don une heure à la fois, c'est-à-dire que 1 $ de notre revenu par tous les heures travaillées de nos consultants chez nos différents clients va être remis à 4 associations différentes qui nous rejoignent. On a choisi Le Camp, le Club des petits déjeuners, Centraide et 60 millions de filles. Donc, chaque consultant, lorsqu'il signe un mandat avec Dolan pour travailler chez un client, doit choisir laquelle fondation pour laquelle il veut donner son, ben, que son 1 heure travaillée de nous soit donnée à cette fondation-là. Je sais pas si c'est assez clair, là, mais on remet 1 $ de notre revenu à nous. Ça les impacte pas, mais ça les impacte de façon sociale. C'est-à-dire qu'ils se disent, wow! Moi, je vais faire quelque chose. En travaillant, je vais pouvoir impacter la société. Puis, je pense que chaque entreprise ne devrait pas juste penser à sa poche en arrière. Se remplir les poches, c'est bien beau. Mais à un moment donné, si tu fais rien, t'as rien. Tu peux pas, tu meurs pas demain matin avec, tu peux pas apporter de l'argent dans ta tombe. T'apportes ce que t'as fait de bon puis ce que t'as fait de mal. Puis c'est avec ça que tu vas mourir un jour. Et que je pense que si tu fais le plus de bien possible, ça va t'obtenir à quelque part.
Ce qu'on disait au début, tu sais, ça revient avec les relations. C'est de même que nous, on décide de bâtir des relations, puis c'est pas, comme Anne-Marie l'a dit, c'est pas avec l'argent que c'est le plus que d'argent que t'as, que c'est pas ça. C'est vraiment les relations avec qui t'es, qui te reconnaît, qui tes amis, ta famille, tu sais, c'est ça qui est important.
Puis à quel point ça vous aide, Jean-François, je me tourne vers toi ici, à recruter des employés pour de l'âne, d'avoir ces valeurs-là dans l'organisation? Est-ce que ça rejoint beaucoup les collègues que vous voulez aller chercher?
Je te dirais définitivement, moi puis Anne-Marie, on est des personnes qui sont très, très, très transparentes dans la vie. Puis what you see is what you get. Puis nous, on est très quatre sur table. On essaye que ça soit toujours le plus juste et équitable pour tout le monde. Dans un domaine de vente, des fois, ça peut vraiment être... c'est vraiment le fameux terme être sharp, là. Il y a plusieurs compagnies qui font ci, qui font ça. Nous autres, on a toujours essayé d'avoir une ligne directrice que ça soit justement le plus juste et équitable pour tout le monde. Puis ça, c'est quand on recrute. À tous les fois qu'on recrute, on essaie vraiment de refaire sortir ça. Que nous, qu'est-ce qui est important, c'est notre équipe avant tout. C'est que tout le monde, si quelqu'un en profite, c'est parce que tout le monde va en profiter. C'est pas une personne, c'est pas juste moi puis Anne-Marie. Si la compagnie va bien, c'est pas juste moi, Anne-Marie puis Stéphanie là, qui en profite. C'est vraiment, vraiment tout le monde. Puis ça, c'est important de le faire sentir à toutes les personnes qui travaillent avec nous là au day to day, parce que oui, c'est quelque chose sur lequel on se base pour aller faire du recrutement chez nous à l'interne, puis c'est quelque chose qui est imprégné dans notre culture d'entreprise.
Puis Jean-François, ici, j'aimerais ça savoir, vous avez grandi, vous avez plus de comptes clients, vous avez un chiffre d'affaires qui grandit à travers les années. Parlons un petit peu de croissance ici. Qu'est-ce qui a impacté la croissance de votre organisation dans les dernières années? Quelles sont les initiatives que vous avez mises en place qui vous ont aidé à aller chercher plus de parts de marché?
Au début, c'est sûr que c'était en gros Anne-Marie Delaurier. OK? Anne-Marie connaît énormément de personnes. Puis, tu sais, au fil des années, moi, je me suis fait connaître, puis ainsi de suite. Fait que ça a vraiment un peu parti comme ça. Ensuite de ça, on investit beaucoup d'argent dans le marketing, tout ce qui est les SEO, les affaires comme ça. Puis ça, avec la nouvelle image de marque, ça nous a vraiment aussi donné un envol. Tu sais, sur LinkedIn, présentement, je pense qu'on a le deuxième plus grand nombre de followers que, je pense, une compagnie qui a comme 2000 employés dans le recrutement TI ici à Montréal. Fait que, tu sais, dans le marketing, on est très, 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 très fort. On est très présent. Puis c'est aussi en allant chercher du bon monde que justement qui sont moins heureux ailleurs puis qui s'épanouiraient plus dans notre compagnie. Puis en s'entourant avec du bon monde, ça fait... on va chercher plus de parts. Là, moi, je connais lui, moi, je connais un tel, puis ainsi de suite. Puis c'est vraiment comme ça qu'on a réussi à grandir, qu'on a créé une notoriété. Le service que tu donnes autant aux clients qu'aux candidats, c'est tellement, tellement important. Puis ça, au fil des années, quand tu peaufines ça comme on l'a fait, ben ça fait en sorte qu'on est rendu où qu'on est.
À tous les auditeurs du podcast Hypercroissance, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Êtes-vous satisfait de votre marketing numérique en 2022? Avez-vous été capable d'aller chercher cette croissance, voire même cette hypercroissance depuis le début de l'année? Si les choses n'avancent pas à la vitesse dont vous le voulez, sachez que J7 Media veut vous aider. En plus d'être une agence ayant géré 100 millions de dollars en publicité Facebook depuis sa fondation, le groupe J7 possède maintenant une offre beaucoup plus globale qu'avant. Notre équipe s'est agrandie et offre désormais des services en publicité Google afin d'intégrer une approche multicanale à notre stratégie. Un département email marketing possédant la certification Platinum offerte aux agences premium chez Klaviyo. Un studio vidéo orienté sur la création de contenu natif et plusieurs autres services vous permettant d'accélérer votre croissance. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire pour terminer l'année en force, on vous invite à vous rendre au www.j7media.com/hypercroissance. Donc, je le répète, J, le chiffre 7, media au singulier.com/HYPERCROISSANCE ou encore écrivez-moi en privé sur LinkedIn. Je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de savoir comment on peut vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels. De retour à l'épisode en cours.
Puis peut-être Anne-Marie, je me tourne vers toi. Donc, des fois, ça se déroule bien.
entreprises mère et fils ici, des entreprises familiales, mais des fois, il doit y avoir une certaine transition. Ça fait plusieurs années maintenant que vous travaillez ensemble. Quels sont les conseils, Anne-Marie, que tu donnerais peut-être aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont en train de penser à vouloir faire une transition au niveau de l'organisation, à peut-être mettre en charge leurs enfants dans des postes de direction? Quels sont les apprentissages que tu as fait à travers les années?
Écoute, c'est pas facile parce que c'est ton bébé, puis t'es obligé de le donner, hein. C'est pas facile.
Comme deux bébés ici, là.
Oui.
Merci, effectivement. Antoine, merci.
Oui, c'est ça. Mais tu sais, je dirais que il faut que tu fasses confiance. Il faut que tu fasses confiance à 100%. Il faut que tu vois en les supportant ce qu'ils sont en train d'accomplir. Fait que la confiance est primordiale. C'est sûr que, tu sais, il faut pas que tu sois là en arrière à toujours micromanager, à toujours vouloir. C'est très, très difficile. Puis Jean-François va te dire, c'est pas toujours facile. Mais je pense que il faut que tu prennes un regard pour leur donner un petit peu à la fois. Comme, tu sais, Jean-François n'a pas eu tout cru dans le bec tout le temps non plus, là. Tu sais, je veux dire, il a mangé des croûtes, il a fait son bout de chemin, puis à un moment donné, tu y en donnes, hey, il fait bien, wow, OK, on va lui donner d'autres choses. Puis lorsque Jean-François a atteint le niveau de présidence, ben, ça s'est pas fait du jour au lendemain non plus. T'sais, avant qu'on le publicait, ça a pris presque un an et quelques mois. Mais lui, il le savait qu'il s'en allait vers ça. Et nous, on était au courant. On a fait en sorte qu'il prenne plus de leadership et tout ça. Donc, lorsque c'est arrivé le temps de dire Jean-François va devenir président au mois de juin 2021, il n'y a pas personne qui était surpris. Tout le monde a fait « Yeah! » Tu sais, c'est pas comme s'il est arrivé « OK, moi, je suis président demain matin. Merci, c'est demain que ça va se dérouler. » Non, ça faisait quand même... Tu sais, il a fait tous les échelons. Il a fait toutes les étapes. Il l'a passé le balai. Il a ramassé du café. Tu sais, il a tout fait. Fait qu'il pouvait pas dire « Ah ben non, il est arrivé et il connaît rien. » Non, il connaît, il le fait bien. Puis ça faisait au moins un an qu'il avait ce rôle-là officieusement. Mais du recul et... petit cœur qui brasse des fois.
Puis toi, Jean-François, ça a été quoi les apprentissages que tu as fait un petit peu de cette transition-là à travers les années?
Bien, je pense qu'Anne-Marie a mis le doigt dessus. Aujourd'hui, on vit dans une période là, où que, t'sais, plusieurs personnes de notre génération essayent d'être trop riches, trop des superstars trop rapidement. Puis il n'y a personne qui veut vraiment travailler puis vraiment être patient. Puis d'avoir du succès, tu sais. Le succès, c'est tu vas en avoir si t'es patient, puis c'est quelque chose qu'il faut que tu fasses à tous les jours. Puis ça, Anne-Marie, encore aujourd'hui, c'est patience, tu sais, écoute, let's go, tu sais, ça va arriver une fois de temps en temps. La business, ça peut pas grandir, peut pas être une multinationale du jour au lendemain. Puis tu sais, il y a toujours du travail à faire. Fait que ça, c'est une valeur qu'Anne-Marie m'a vraiment appris. Puis tu sais, ça te remet un peu les deux pieds sur terre que justement, il va falloir que tu ramasses les tasses à café avant de devenir président. Puis ça s'est pas fait du jour au lendemain. Hein. Ça s'est fait en 11 ans. Mais vraiment, la transition, si je peux dire quelque chose, c'est vraiment, comme Anne-Marie l'a dit, là, la confiance. Puis aussi, avoir pour le parent, avoir une certaine humilité de comme, OK, tu sais, oui, peut-être que il y a des choses à changer que tu vois, que moi je vois pas parce que ça fait 25 ans que je travaille dans la compagnie, puis que tu sais, avoir un vent de changement, des fois ça fait du bien, puis c'est pas toutes les parents qui acceptent ça. Puis c'est quelque chose que moi je pense là qu'il faudrait vraiment se pencher dessus, parce que si t'as de la confiance, si t'as un petit peu d'humilité, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peut arriver dans un reprenariat comme le nôtre. Je pense qu'Anne-Marie elle a fait ça avec merveille. Je te mentirais pas. Écoute, encore aujourd'hui, c'est pas toujours évident. Écoute, on essaie de tirer chacun de notre bord de notre couverte une fois de temps en temps. Puis, on a encore des problèmes d'entreprise qu'on essaie de régler ensemble. Puis, ah, moi, je vois ça de même. Puis, elle voit ça comme ça. Puis, en plus, là, avec Stéphanie aussi, qui c'est comme un... elle aussi est devenue associée, fait qu'elle aussi a un mot à dire. Fait que là, c'est moi contre des fois ma mère, puis mon associé, puis des fois c'est les deux contre moi, des fois c'est moi puis Anne-Marie contre, tu sais, c'est des fois là ça
brasse un peu, mais c'est le fun. Il y a jamais eu de grandes décisions dans du consensus, hein. C'est souvent en ayant des idées différentes qui au final on arrive à trouver le milieu entre différents points de vue. Puis j'aimerais parler un petit peu maintenant de votre industrie. Donc le volet technologique a eu énormément de rebondissements dans la dernière année. Si on fait simplement regarder les plus grandes entreprises au monde ou en technologie ont perdu énormément de valeur sur le marché boursier dans la dernière année. On dirait qu'il y a eu une accélération comme pas possible pendant la pandémie pour des raisons excessivement évidentes. Là, il y a un retour du balancier qui s'est déroulé pour beaucoup de ces organisations technologiques. Là, quelle est la dynamique en ce moment? Est-ce que c'est autant difficile qu'avant pour les entreprises technologiques de trouver du personnel ou en ce moment, on retourne à un endroit un petit peu plus normal? Peut-être, Anne-Marie, je me tournerai vers toi ici.
Écoute, je pense pas que c'est vraiment normal. Pas encore, en tout cas. Oui, il y a un retour du balancier, mais on s'entend qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Il y a une pénurie de main-d'œuvre et elle est encore plus prononcée, je pense, en technologie. Fait que, oui, il y a eu des grosses banques qui ont mis à pied tout ça, mais ici, je sais pas, Twitter a mis du monde à pied. Il dit, ça nous affecte pas ici à Montréal. Tu sais, je prends vraiment Montréal. La pénurie, elle est là parce qu'on manque de personnes. Parce que les baby boomers prennent leur retraite. Ils ont pris leur retraite avant ou pendant la pandémie. Ils sont pas revenus. Tu sais, on manque de gens. Fait qu'à la base, c'est difficile. Est-ce que les gens appliquent plus durant les derniers mois? Peut-être qu'on l'a vu un peu plus. Les gens se disent, OK, oui, il y a des choses qui se passent. On va appliquer. Est-ce qu'on a moins de mandats? Peut-être un petit peu. Est-ce que c'est parce que c'est Noël qui s'en vient? Est-ce que c'est parce qu'on vit une récession puis les gens ont peur un peu? Est-ce que c'est parce qu'on vient d'avoir des élections aussi? Tu sais, tout ça fait en sorte que les gens vivent dans une incertitude. Mais sache que nous, les mandats nous rentrent à toutes les semaines. On compte des postes encore à profusion. Est-ce qu'on a vu un changement? Oui. Un gros changement? Non, pas encore.
Je posais la question à Anne-Marie. Peut-être, Jean-François, je serais curieux de t'entendre ici aussi parce que j'ai des très bons amis à moi qui ont des entreprises en technologie aux États-Unis et ils m'ont dit cette semaine, écoute, ce n'est plus du tout difficile de trouver des gens. Ils n'étaient pas capables de trouver du monde depuis 2 ans et là, il y a eu, on le sait, beaucoup de renvois à certaines entreprises et là, c'est plus facile pour eux de trouver des gens. Et souvent, des fois, ce qu'on peut voir aux États-Unis peut se transmettre et finalement arriver également au Canada. Toi, Jean-François, 2023, comment tu vois ça? Penses-tu que ça va être l'industrie va beaucoup changer ou finalement, comme on vient d'en parler, on continue de vivre une grosse pénurie de main-d'œuvre au Québec et ça va rester très, très en demande et très difficile de trouver des gens en technologie?
Je te dirais que trouver des gens en technologie, ça va toujours être difficile parce qu'on s'entend que la technologie évolue tellement, ça évolue toujours, que tu sais. C'est pas tout le monde qui connaît ça, puis c'est pas tout le monde qui dans chaque compagnie qui peut rester à l'affût. Est-ce qu'il y a un changement aux États-Unis? Définitivement, tu l'as dit, là, les grosses compagnies qui ont mis des personnes à pied, puis ainsi de suite. Les États-Unis, il y a beaucoup plus de multinationales que nous, beaucoup plus de grosses compagnies en technologie que nous ici au Québec. Au Québec, là, majoritairement, là, c'est des PME. C'est des PME, oui, peut-être en technologie ou dans tout autre domaine confondu. Mais tu sais, c'est pas des PME qui ont 500 personnes en TI puis écoute, ils ont investi énormément en R&D. Puis là, finalement, bon, mais écoute, là, on va slacker un peu sur ce projet-là. puis ce qui va créer, évidemment, qui va mettre du monde sur le marché de l'emploi. T'sais, ici, vraiment, les personnes en TI travaillent pour majoritairement des boîtes, peut-être que c'est pas le core business. Il y a beaucoup, comme je dis, il y a beaucoup de PME. Ça, je pense que le Québec, ça va pas nous sauver dans un sens, parce que c'est sûr qu'à un certain moment donné, ça peut pas toujours être comme c'était depuis les deux dernières années. T'sais, c'est un peu, je vois ça un peu comme le marché immobilier. Être un courtier immobilier depuis 2 ans, si t'avais une maison, tu le savais qu'elle allait se vendre. Puis c'est comme, nous, dans notre domaine, t'avais un mandat, tu sais que le client, tu vas envoyer un candidat ou deux, il va dire, oh wow, OK, c'est sûr, je le prends. C'est très différent d'avant, que justement le marché candidat maintenant, que les candidats pouvaient vraiment un peu choisir chez qui va, puis ainsi de suite. C'est la première fois qu'on voit ça depuis, c'est comme assez longtemps. Avant, c'était un marché d'employeur, que c'est la compagnie qui, moi ça j'aime, il manque cette petite technologie là, ou côté personnalité, tu rejoins pas tout à fait nos valeurs, fait qu'on va passer. Je pense pas que ça va revenir à ce niveau-là. Comme Anne-Marie disait, il y a encore quand même une certaine pénurie, mais je pense que ça va être un petit peu plus difficile faire du recrutement en 2023. Combler un mandat, ça va être plus difficile. Aller en chercher, ça va être plus difficile. Mais je pense que, étant la compagnie qu'on est, on va toujours être capable de sortir du lot. Puis, tu sais, c'est ça qui va faire en sorte là que justement on va continuer de progresser.
Puis Anne-Marie, quels sont vos plans pour 2023, 2024? Est-ce que c'est très défini vos plans pour l'organisation?
Écoute, on vient de sortir d'un off-site de planification annuelle cette semaine. Fait que je pourrais te dire, c'est de la croissance, de la croissance, de la croissance. C'est ce qu'on voit, c'est sûr. On veut grandir notre division contractuelle. Ça va super bien. On a signé des appels d'offres qu'on a gagnés. La croissance, elle est là. Mais comme je disais, puis comme Jean-François l'a répété, pour nous, la croissance, là, c'est on grandit slowly but surely. On peut pas, quand t'es au buffet, là, tu peux pas manger tout le buffet, tu vas avoir mal au cœur. Fait qu'il faut que tu choisisses ce que tu veux. Puis c'est ça. Nous, on a décidé que cette année, on s'en va pour grandir notre division contractuelle, consultation. On met beaucoup de sous là-dedans, au niveau marketing, au niveau de notre programme, un don, une heure à la fois. Très important pour nous. Et je pense que ça, avec notre bâtisseur de relations, les valeurs de Delan, on va grandir. Je pense qu'on va grandir. Et c'est là qu'on s'en va. En fait, je pense, on va grandir. C'est ça qu'on veut faire, mais c'est là qu'on s'en va.
Puis, je termine un peu, question plus personnelle. J'aime toujours le savoir. Je commencerai peut-être avec toi ici, Jean-François. Es-tu un amateur de lecture? Est-ce qu'il y a certains livres d'affaires qui ont pu marquer ton imaginaire à travers les années?
Définitivement. Écoute, on a fait un autre podcast il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être 2 mois. Là. Puis je lis encore ce livre-là, ça s'appelle Die with Zero de Bill Perkins. Puis c'est vraiment un livre qui dit qu'il faut que tu profites un peu de chaque moment de ta vie, puis qu'à chaque moment, faut que tu essaies de faire le plus avec ce que t'as. Puis justement, pas te ramasser à 70 ans avec tout ton argent, puis finalement, t'as pas vécu aucune expérience. C'est vraiment vivre toutes les expériences que tu peux à toutes les années de ta vie, parce que c'est des moments que tu vas jamais revoir. Puis ça, je pense que, c'est un livre qui m'a vraiment marqué, je te dirais.
Anne-Marie, toi, de ton côté?
Écoute, j'en ai 2. Je te dirais que j'ai un ami qui est coach, qui a écrit 2 livres, Make Big Happen and Making Big Happen. Et c'est vraiment basé sur sa vision, sur son côté personnel de tout ce qui est arrivé. Puis si tu y crois, tu vas le faire. Si tu vois dans ton crystal ball, comme je t'ai dit, nous, on voit la croissance. Je la vois. Et là, ça va arriver. Mm-hmm. You need to make it happen. Fait que on se dit tout le temps, make it happen, think big. C'est ça. Il y en a un sur ma table de chevet, c'est Hungry, Fueling on Your Best Game de Ryan Walters, qui était un coach d'hockey, un joueur d'hockey, un leader exceptionnel au niveau de la communication. Je l'ai eu dans un de mes groupes comme speaker. Il m'a impressionné à me donner des frissons. Fait que ça, c'est sur ma table de chevet pour entre Noël et Jour de l'An, je te dirais, à lire.
Puis, podcast, Anne-Marie, est-ce que tu en écoutes un peu?
Je suis pas très podcast.
Non.
Mais
wrong answer, Anne-Marie.
Transparence, hein? Transparence sur Anne-Marie, transparence. Par contre, tout le monde me dit oui. Fait que oui, je vais m'en brancher dans mon auto.
Toi, voilà. Jean-François?
Oui, mais plus les Joe Rogan, une fois de temps en temps, c'est clair. Mm-hmm. Je prends pas le temps de m'en écouter. Quand j'en écoute, c'est comme des petits bouts, mais c'est plus comme des podcasts peut-être drôles. Au côté business, je suis vraiment... je suis vraiment plus sur YouTube, mettons. T'sais, c'est des bouts de podcast, ben oui. Puis j'essaie de comme... écouter un podcast d'une heure, là, des fois, là, je trouve ça...
Puis, OK, j'aimerais terminer avec vos routines. Jean-François, à quoi ressemble ta routine avant, pendant et après le travail?
Écoute, la routine, mettons, je me lève tous les matins entre 5h30 et 6h. Je prends mon café. Si je suis chez nous, je prends mon café, je prends ma douche, puis je me dirige tout de suite dans mon bureau. Je fais des courriels, je regarde qu'est-ce qui se passe dans côté opérationnel dans la compagnie. On a un meeting à tous les jours à 9h. Fait que 9h, part le meeting, puis après ça, let's go dans la journée. J'essaie toujours de prendre un break le midi. J'aime ça, soit quand je suis au centre-ville, aller manger, sortir du bureau, juste me relaxer un peu quand je suis chez nous. J'aime ça me faire à manger. Puis après ça, je recommence à travailler jusqu'à 5, 6 le soir. Après le soir, j'aime ça passer du temps, évidemment, écoute, avec mes amis, ma famille, ma copine. J'aime ça aller walking. Je suis un amateur de tout ce qui est véhicule motorisé. L'été, je fais de la course automobile, entre guillemets. L'hiver, je fais du skidoo, du 4 roues, de la moto, you name it. C'est pas mal ça. C'est quoi, ça ressemble mes journées, mes fins de semaine.
Et bien content qu'il neige aujourd'hui.
Bien content. bien content.
Et toi, Anne-Marie, à quoi ressemble ta routine?
Écoute, je suis là à peu près à la même heure que Jean-François, 5h30, 6h moins quart. En principe, je marche. Je marche à tous les matins. En fait, je me donne un coup de pied en arrière pour marcher à tous les matins. La sœur de Jean-François a 2 enfants qui habitent à 3 maisons de chez nous. Donc, si jamais je suis à la maison et il y a quelque chose qui se passe, mais c'est sûr que c'est moi qui ai le backup. Fait que j'ai ça de ce côté-là. Oui, on a un meeting à tous les matins. Et mon rôle chez Delan est vraiment de mettre l'avant Delan. Donc, de rencontrer des gens, de faire des webinaires, de faire des podcasts, de donner des conférences, de faire du réseautage, de mettre de l'avant Delan finalement. Puis c'est ce que j'adore faire dans le plus profond de moi-même parce que je pense que je le crois tellement, je vis l'entreprise. Fait que, tu sais, je suis tellement fière d'eux autres. Fait que c'est facile pour moi, j'aime ça. Le midi, comme Jean-François, tu sais, j'aime me faire à manger, je cuisine pour tout le monde. Tu sais, des pâtés chinois, des muffins, des affaires de Noël, et puis là, j'en donne. Donc ça, moi, c'est comme ma soupape, là, quand je suis stressée, là, je vais faire des muffins. Fait que si un matin, là, vous vous ramassez avec 72 muffins, c'est parce que la madame est bien stressée.
Quand Marie a fait des muffins, là, tu peux te rendre chez eux, là, t'es comme, oh boy!
Ça va pas. Mais tu sais, on a une vie familiale, tu sais, comme je disais, Stéphanie, sa sœur, habite à 3 maisons. Fait que ça va m'arriver lundi ou le mercredi que je suis ici d'aller chercher les petits, les amener. Sa sœur est capable de faire le souper, elle vient les chercher. Tu sais, donc on a ce type de vie-là. J'essaie de parler à tous les employés au moins une fois dans la semaine. Je peux pas leur parler. Moi, je suis pas dans les opérations à tous les jours, mais une fois par semaine, les appeler, salut, comment ça va? Quand on est au bureau, très important de les écouter, de leur parler. Puis des fois, à la fin de la journée, tu sais, je dis, oh mon Dieu, toi, j'ai pas eu le temps de te parler aujourd'hui, comment ça va? T'sais? parce que c'est pas toujours évident. Donc, d'être présente pour Delane, d'être présente pour ma famille, mes petits-enfants, mon conjoint.
Fantastique. Puis comment on peut et où on peut vous retrouver? Peut-être Jean-François ici, si tu voudrais nous dire l'endroit le plus simple pour vous suivre, pour en apprendre un petit peu plus, pour peut-être sur des postes que vous avez d'ouvert de chez vous, des mandats que des organisations technologiques qui nous écoutent aujourd'hui aimeraient peut-être travailler avec vous.
C'est sûr sur notre site web delane.qc.ca. Sur LinkedIn à Delane Chasseur de Talent en TI, vous allez voir sur LinkedIn, il y a vraiment notre page. On est là, on fait des posts quasiment à tous les jours. Vous allez pouvoir nous suivre un peu. C'est notre vie qui est sur LinkedIn au niveau de la job. On est sur Instagram aussi. On est sur Facebook. Fait que vraiment, là, partout, Delane, chasseur de talent en TI.
Fantastique. Jean-François Charpentier, Anne-Marie Delaurier, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a été une très belle discussion, une belle histoire familiale qu'on a devant nous. J'espère que les gens qui nous écoutent vont être capables d'en tirer des apprentissages si eux ont à faire également une transition au niveau familial. Merci beaucoup. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, ce serait très apprécié si vous pouviez partager le podcast sur les médias sociaux afin de faire connaître le balado un maximum de gens d'affaires possible. Une capture d'écran du podcast est toujours appréciée. Également, je vous invite à m'ajouter sur LinkedIn. Comme je vous le dis à chaque semaine, j'adore discuter avec vous. Et plus souvent qu'autrement, vous me donnez de super idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.